Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de notre lettre, hein, pour ceux qui ont suivi. Donc on arrive dans cette lettre de Corinthiens que Paul a écrit à cette église qu'on a pu voir ensemble. Une église qui avait beaucoup de soucis, mais une église que Paul veut encourager à être différent. Différent dans tous les modes de pensée. Et ce matin, on va parler d'un sujet. C'est ça qui est bien avec les lettres suivies, hein. C'est que c'est pas moi qui choisis le sujet, c'est le sujet qui nous choisit. C'est la Bible qui nous dit, ben maintenant, on arrive à ce passage-là. Et effectivement, on va parler des dons, on va parler de l'argent. C'est jamais quelque chose qu'on aime beaucoup parce qu'on se dit, est-ce que c'est de moi qu'on est en train de parler? Il y a des gens qui disent, ah, c'est parce qu'on a besoin de construire un bâtiment qu'il va parler d'argent. Ben non, c'est le hasard du calendrier, hasard de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est un réel problème. On en est, je pense, tous conscients. Gagner de l'argent, avoir de l'argent. Pour ceux qui côtoient dans le monde professionnel, moi, je côtoie juste des étudiants, ils veulent déjà gagner de l'argent. J'ai une nièce qui veut pas travailler parce qu'elle dit « je vais devenir tiktokeuse ou influenceuse ». Ça gagne plein d'argent et ça fait pas grand-chose. Obsédé par gagner de l'argent. C'est une vision de l'argent. Avec l'argent, les problèmes s'effacent. Les problèmes... C'est nul, vous êtes trop pauvre. Moi, quand j'ai de l'argent, c'est bien. Alors, c'est pas vrai, hein, mais c'est ce qu'on croit et c'est ce qu'on aimerait. Si j'avais un peu plus, et on n'en a jamais assez. Un des profs que j'avais me disait, l'argent, c'est le seul qui fait des petits. C'est la seule chose qui se reproduit, qui n'est pas humain, qui n'est pas ni animal. C'est des choses qui se reproduisent alors que c'est pas vivant. Et tout le monde est prêt, et par contre, tout le monde regarde les portées de l'argent. Il disait, on est vraiment parfois obsédé de l'argent. Et c'est pourquoi la parole de Dieu parle de l'argent quasiment tout le temps. C'est un très grand sujet qui traverse la parole de Dieu. Parce que justement, ça peut être un souci aussi dans le milieu chrétien. En tant qu'Église, on doit réfléchir en tant qu'Église, en tant que personne de l'Église, à la manière dont nous donnons. Et là, il va y avoir autant de pensées que de personnes. La loi stricte. C'est plus la loi, je donne quand je veux, personne ne doit regarder. C'est la liberté en Christ, je peux faire ce que je veux avec mon argent, dont on le gardait pour moi aussi. Et dans son ouvrage, Les idoles du cœur, il disait, il a écrit un livre qui s'appelle Les idoles du cœur, je crois que c'est Timothy Keller, et il l'a fait aussi en présentiel, et tous les jours de la semaine, il parle d'une idole du cœur, l'orgueil, jalousie et l'argent. Et il dit, c'est bizarre, hein, chaque fois que j'arrive à l'argent, c'est là où il n'y a quasiment personne. Dans la même assemblée. Il fait parce que le pasteur était venu lui dire « Oh, ici, on n'a pas de problème d'argent. » Donc quasiment personne n'était venu écouter. Parce qu'il n'y a pas de problème avec l'argent. Tout le monde gère hyper bien. Et très rapidement ce matin, on va aborder une question. Hein. C'est pas simple. Ni dans l'église, ni ailleurs, la place de l'argent et la place du don. Et comment notre don peut être une gloire de Dieu? Et Paul, hein, là, il s'adresse aux Corinthiens. Vous voyez déjà tout ce qu'il leur a dit. Hein. Je ne vais pas refaire tout. Mais les Corinthiens, ils ont déjà... Aujourd'hui, on dirait qu'ils ont déjà pas mal pris cher, quoi. La personne qui a lu la lettre de Corinthe, il devait trembler. Parce qu'il la lit devant toute l'assemblée, c'est pas Paul qui est venu la lire. Et là, il continue. Il continue. On a vu tout ce qu'il leur a déjà reproché. Et là, on arrive dans 1 Corinthiens 16, 1 à 4, question d'argent. Les dons pour la gloire de Dieu. Et là, on a un tout petit verset, hein. On a un tout petit, On a un tout petit passage hein, dans 1 Corinthiens 16, 1 à 4. Voilà ce qu'on va lire ce matin. 4 versets. Quand j'ai préparé, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir dire en 4 versets. Mais la parole de Dieu est riche, profonde et Paul est très... Il va cibler des choses très pratiques qu'on peut mettre encore aujourd'hui dans nos vies. 1 Corinthiens 16, 1 à 4. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites-vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de Galatie. Chacun de vous le dimanche, mettre de côté ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez choisis pour porter vos dons à Jérusalem. S'il est approprié que j'y aille moi aussi, ils feront le voyage avec moi. Voilà, quelques versets justement. Priez. Hey, Seigneur, merci pour ta parole, parce que ces quelques versets nous enrichissent. Merci parce que tu vas encore nous parler. Tu traverses, ton esprit traverse les époques et touche le cœur parce que le cœur humain n'a pas foncièrement changé depuis les Corinthiens. Et merci de ce matin nous apprendre encore à te glorifier dans nos vies, mais même au travers notre gestion, même au travers nos dons, au travers ce que nous faisons, de ce que tu nous donnes. Amen. Donc le contexte, un rapide mot de contexte, voilà, l'église de Jérusalem était une église qui était en souffrance, et Paul avait demandé aux églises de faire un geste pour soutenir l'église de Jérusalem, pour l'église mère, vous allez dire, hein, cette église dont tout était issu. Et il rappelle aux Corinthiens, il leur dit, hein, voilà, n'oubliez pas, hein, ça, on le voit aussi dans la deuxième lettre, il dit maintenant, poursuivez ce que vous avez commencé, vous vouliez faire un des dons, eh ben voilà comment vous allez vous y prendre. Voilà pourquoi il va commencer. C'est-à-dire, cette église fait des dons, alors là c'est pour soutenir une autre église, mais les grandes valeurs que Paul donne sont valables pour l'église locale. Pour soutenir mon église locale, comment je fais? Pour faire des dons, comment je fais? Et ça, les grandes lignes sont valables encore aujourd'hui. La situation de pauvreté de la ville devait toucher ces Corinthiens, comme ceux de Galatie et de toutes les églises dont Paul avait été ministre. Il leur dit maintenant, faites preuve de libéralité. Allez enrichir vos frères, vous qui avez été enrichis spirituellement. Et voilà comment il va commencer. Il va commencer par une générosité planifiée. Alors, Paul encourage une générosité planifiée. Comme pour les églises de Galatie, vous voyez, il ne s'adresse pas qu'à Corinthe. Il ne s'adresse pas qu'à une seule église. Il va dire à tous les croyants, à tous les fidèles, de mettre à part. Et c'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 16, 1 et 2, la première partie du verset 2. Il dit, en ce qui concerne la collecte en faveur des saints, donc en faveur des saints, c'est les saints de Jérusalem, mais on peut aussi dire c'est tous ceux et celles qui sont aussi dans cette église locale. Il dit, vous aussi, comme je l'ai prescrit aux églises de Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté ce qu'il pourra. Et là, de manière précise, Paul donne aux chrétiens de Corinthe, à être différent des autres. Il dit, ben maintenant, quand vous allez recevoir votre salaire, vous allez mettre à part. Une habitude, une planification. Les dons ne sont pas moins spirituels quand ils sont planifiés que les dons spontanés. Souvent, on confond spontanéité et spiritualité. C'est pas parce qu'un message a été préparé, qu'on a prié, qu'on a pris du temps, qu'on a recherché, qu'on s'est remis devant le Seigneur et qu'on a mis une semaine à l'écrire, il n'est pas moins spirituel que quelqu'un qui va avoir une parole que le Seigneur va lui donner. Les deux, on n'oppose pas spiritualité et planification. La spontanéité existe, on veut le croire, mais la planification aussi. Et là, Paul encourage la planification. Qu'est-ce que vous allez faire de votre argent? C'est important. Mais avant toute chose, mettez de côté. Et le premier jour de la semaine, c'était le dimanche, à supposer qu'ils étaient payés ce premier jour, ou en tout cas la fin de la semaine d'avant, il dit « mettez de côté ». Mettez de côté, systématiquement. Et les temps de collecte, les temps, c'est pas comme maintenant avec les virements bancaires, hein, c'était très long. Il fallait du temps à Paul ou aux personnes qui allaient être chargées de ramasser l'argent, de venir chercher cet argent. Et il dit, ben, mettez de côté en attendant que j'arrive. Je vais venir et comme ça, j'aurai plus qu'à prendre ce que vous avez mis de côté. Et Paul, il démontre que la libéralité de chacun, c'est de planifier la somme désirée. C'est chacun selon ce qu'il peut. On y reviendra. Ça, c'est la deuxième chose. Mais on peut retenir ça, frères et sœurs, que la planification de nos dons ne doit pas se faire selon un sentiment d'un coup. D'un coup, hop, on est touché dans nos cœurs, on va faire ça, c'est possible. Mais aussi avec sagesse. L'Esprit nous donne de la sagesse. J'ai lu cette semaine un petit livre qui s'appelle « Pourquoi soutenir notre église locale ?» et l'auteur dit « Il y a autant, la sagesse de Dieu, de l'Esprit Saint, est autant avec vous quand vous faites la vaisselle que vous chantez un psaume. Quand vous êtes au culte, que quand vous préparez votre budget. L'Esprit Saint vous anime tout le temps, si vous le laissez faire, bien sûr, mais il dit « Voilà, soyez portés par l'Esprit, même quand vous planifiez ce que vous allez faire. » Il dit « L'Esprit de sagesse, il est là. » Et Paul souligne un autre enseignement, comme je le disais, « C'est avant toute chose. » Avant toute chose, c'est ça que vous devez faire, mettre de côté. Vous pourrez faire ce que vous voulez après, mais prenez le temps de ce que le Seigneur vous a donné, mettez de côté. Comme vous le voulez, mettez de côté. Exhortez à donner. Des fois, ça passe en dernier. On dit, je vais payer ça, ça, et je ne dis pas, hein, je connais la fiscalité de notre pays. Je ne dis pas que c'est simple, mais on dit, je vais payer ça, 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 et s'il reste là, après le resto, et le ciné, je vais faire le Seigneur. On peut raisonner comme ça. On se dit, de toute façon, le Seigneur, sachant que dans le livre que j'ai lu, il dit, une des premières pages qu'il dit, il dit, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Ah, oh, ben, s'il n'en a pas besoin, je peux lui donner. On peut raisonner comme ça, il n'y a pas besoin, de toute façon. Puis il y en a d'autres, ils disent, si Dieu m'a donné cet argent, je ne vais pas lui rendre. Hein, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Mais on peut avoir des raisonnements qui nous faussent et qu'on se dit, waouh, on est dans les lois, on est dans les clous, de toute façon, c'est juste. Une fois que j'aurai tout fini, je donne ce qui reste. Et là, Paul, il est en train de dire, Corinthiens, soyez différents. En fait, il appelle les églises à être différents. C'est l'inverse. Je vous engage, je vous exhorte à donner avant toute chose. Avant même les impôts, avant même tout ce que vous voulez. Il dit, c'est ça que vous devez mettre de côté. Nous sommes exhortés à chacun donner une somme. Alors là, c'est pour soutenir l'église de Jérusalem, mais là, c'est pour soutenir l'église locale aussi. Dès le début. Et il disait aussi, ne laissons pas, alors c'est pas Paul, hein, c'est aussi Paul, lui, il savait que les gens avaient l'argent liquide, aujourd'hui c'est plutôt rare. Ne laissons pas aussi, frères et sœurs, le fait d'avoir des virements automatiques, ben nous dire, voilà, c'est... Alors c'est bien, je ne suis pas contre, ça facilite les choses, j'en fais moi-même, mais ne laissons pas ces choses faciles des fois nous laisser déborder en disant on ne revient jamais à ce qu'on a fait. On a pu mettre en place un virement automatique à une époque et notre situation a changé et on ne change pas forcément ces choses. Voilà, Paul appelle à avoir aussi cette sagesse, ce discernement. Et Paul, hein, comme on l'a dit, hein, dans... Dieu ne désire pas notre argent. Et Paul l'avait bien signalé dans le chapitre 13. Il dit, si je distribue tous mes biens, ça c'est le 13.3, hein, vous vous rappelez, on avait fait ensemble, 1 Corinthiens 13, si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je livre mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et voilà ce que Dieu veut pour les Corinthiens et qu'il veut aussi pour nous. C'est l'amour de nos cœurs reconnaissants. Je ne lui donne pas de l'argent en disant, ah t'as vu, t'as vu la somme, regarde ces chiffres. Ah mais Dieu, ça, c'est le cœur. C'est le cœur. Je place ma confiance, mon amour, ma reconnaissance en Jésus-Christ, lui qui m'a tout donné, lui qui a tout créé. Et je lui rends ce que je peux, mais je lui rends avec reconnaissance, et c'est l'attitude de cœur. Et on l'a vu en introduction, l'attitude de cœur de cette veuve, qui bien sûr était elle obligée, mais elle l'a fait quand même, une attitude de cœur qui est différente. Une attitude d'argent. Là, ici, Paul cible plutôt le cœur que la somme. Ce que Dieu veut, c'est l'amour de nos cœurs reconnaissants. Une libéralité qui lui fasse gloire. Il y a un missionnaire qui disait tout simplement, il avait envie d'une pomme, parce qu'il était dans un milieu où il n'y en avait pas, et il était envoyé. Et tout simplement, un jour, il a reçu une pomme. Ça a valu plus de valeur pour lui, ce don-là, que ce qu'il recevait. Alors, il remerciait le Seigneur pour ce qu'il avait reçu, mais... Et en fait, c'est la personne qui avait mis cette pomme, elle l'avait juste oubliée dans le colis. Elle l'avait posée là, c'était devait la manger à la pause, et le colis est parti avec. Heureusement qu'il partait en avion, en bateau, je suis pas sûr qu'il ait eu la pomme. Mais voilà, c'était tout des petits... ça coûte rien une pomme, mais pour lui, ça a plus de valeur. Et là, c'est ce qu'il est en train de dire, il dit, prenez, ça va enrichir quelqu'un. Donnez, ça va enrichir. Avec mes modestes moyens, avec tes modestes moyens, tu peux rendre gloire à Dieu, selon ce que tu peux donner. Paul encourage donc une planification du don. Encourage aussi une systématisation, c'est-à-dire c'est quand on le fait avec habitude. Vous savez, prendre une bonne habitude, c'est 21 jours. Prendre une mauvaise, c'est 3. Donc voilà, il dit systématiquement, faites ces choses et après ça devient automatique. C'est plus long, mais ça devient automatique. Mais il faut tenir, faut s'accrocher. Surtout quand c'est pas dans nos cœurs. Hein. Donner, c'est pas dans nos cœurs. On tient toujours un petit peu. Je te le donne, mais je vérifie quand même où ça va. Et voilà, il dit vivre dans l'amour et tenir ses engagements. Il dit tenez dans le temps. Mettre de côté, prévoir ses dons, c'est une générosité planifiée. C'est pas forcément un calcul savant d'équilibriste dénué de tout amour. Hein, Rino d'Apozzo, il disait une femme qu'on appelait la Madame Demi-Prune. Parce qu'en fait, quand elle pesait le kilo de prune, elle coupait une prune en deux pour être sûre que ça soit pile le kilo. Donc elle donnait pas tout. C'était bien droit, bien carré. C'était tous les dons, toutes les choses étaient bien carrées. Et son neveu, qui venait souvent chez elle, et le dimanche, il commence à chanter, puis il fait « On chante pas, c'est le jour du Seigneur !» Et pourtant, il imitait un oiseau. Et après, il voit le chien, il joue un peu avec le chien, qui s'amuse, elle avait une ferme, il fait « On joue pas, c'est le jour du Seigneur !» Alors, il visite encore la ferme, puis il voit l'âne, qui était tranquille, peinard, puis il fait « Oh, l'âne, t'es tranquille, tu te tais, t'as la même religion que ma tante !» Alors en fait, on peut être très rigoureux dans ce qu'on croit et dans ce qu'on fait. Et pourtant, on oublie le principe important, c'est l'amour et le cœur. Le cœur, disons. Mettre de côté, prévoir, cette générosité planifiée, non pas à l'aveugle, mais avec une planification pleine d'amour et en disant « Merci Seigneur, tu me donnes ça, je te donne ça, et fais-en ce que toi tu en as envie. Je vais donner à mon église locale, et ce qui reste, ou ce que je vais donner en plus, dis-moi où, indique-moi où. » Et là, on est vraiment dans ce qu'on a envie. Il nous encourage. Voilà. Il encourage les Corinthiens et il nous encourage aussi. Nous sommes appelés à nous confier en Dieu. C'est aussi ça, une confiance en Dieu. Jusqu'à quel point tu as confiance en Dieu? Je me rappelle toujours d'un petit dessin où il y a un alpiniste qui est près du... Il va tomber, en fait. Et puis il est chrétien, puis il dit « Quelqu'un peut m'aider ?» Puis il y a une voix qui vient d'en haut, puis qui dit « Lâche, je te retiens. Quelqu'un d'autre ?» Jusqu'à quel point j'ai confiance en Dieu, en fait. Et après, il continue, Paul continue, la générosité quantifiée. Que chacun de vous, le dimanche, mette de côté ce qu'il pourra en fonction de ses moyens. Voilà, Paul, il appelle à être différent, mais il dit aussi, la différence qu'on a en Jésus-Christ, je ne suis pas là pour vous voler. Je ne suis pas de ces systèmes où on devait tout donner, qui existaient déjà à Corinthe, hein, les systèmes de culte, où on devait plus on donnait, plus on était béni par le Dieu. Oui, c'est des dieux à balance très très humaine. Et il dit non, non, attention, en Jésus-Christ, c'est pas ça. Chacun donnera en fonction de ses moyens. Et on a vu dans l'église de Corinthe qu'il y a des gens très pauvres. Il y avait des gens très riches, il y a des gens très pauvres, il les avait repris à cause de ça. Il dit que chacun s'attende. Attention, vous êtes en train de ridiculiser et d'humilier celui pour qui Christ est mort et que vous dites votre frère. Attention, remettez la balance. Paul, il ajoute un jalon incroyable qui différencie donc l'évangile de tous les autres courants religieux. Il dit l'apôtre, il parle de la part de Dieu, il dit « Je ne veux pas votre pauvreté, je ne veux pas votre endettement, ne vendez pas votre maison pour soutenir l'Église. » Non, parce que je l'ai entendu malheureusement dans des milieux « Vendez, donnez-moi et vous serez bénis. » J'ai toujours du mal avec ce genre de choses. De se mettre dans un état de pauvreté extrême, et on l'a lu aussi en introduction. Un équilibre. Les Corinthiens, ils disent, vous ne vous mettez pas en danger financièrement. Que chacun donne selon ses moyens. Et personne n'est là pour juger ce que l'autre a donné. Parce que c'est le cœur. C'est la clé que l'auteur donne pour l'église de Corinthe et aussi pour nous. L'église, c'est pas un endroit où il y a que des gens qui sont blindés de pognon. Ou que des gens bien pauvres. Il dit, l'église, c'est un mélange. Tout le monde appelé à Christ. Et chacun doit donner. Parce qu'il dit bien que chacun de vous, c'est pas lui donne, donc moi je donne pas, c'est tout le monde doit donner, mais selon ses moyens. Selon ses moyens, celui qui l'a arrêté sur son cœur. C'est la clé. Et je pense que c'est ça aussi que nous sommes appelés à faire, chacun d'entre nous. Et dans l'honnêteté, dans la sans se comparer, on voit bien hein, l'épisode dans les Actes, un épisode terrible, avec Ananias et Saphira, qui vendent leur champ. Parce que un des frères avait vendu tout son champ, il avait donné tout l'argent aux apôtres. Eux, ils ont voulu faire pareil, mais ils ont menti. Ils ont gardé de l'argent. Et Pierre, il n'est pas en train de dire, oh là, t'as menti, il fallait tout l'argent. Il dit, tu pouvais faire ce que tu voulais, en fait. L'église, c'est pas un endroit où tout le monde doit se copier. Il dit, tu aurais pu vendre ce champ, tu aurais même pu le garder, ce champ. En le vendant, tu aurais pu garder une partie et nous en donner, tu aurais pu tout garder. Il dit, le fait que tu aies menti, et là, c'est le cœur qui est mis en avant. Il dit, c'est une générosité qui est fausse. Et il dit, bon là, c'est assez terrible hein, parce qu'il meurt, et sa femme aussi. Moi je dis, heureusement qu'on n'est plus traité comme ça aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, on veut revivre l'église des apôtres. Ah, si tous ceux qui mentent commencent à mourir, il n'y a plus grand monde. Hein. Non mais c'est dans la Bible, hein. Je veux dire, il faut faire attention à ce qu'on demande. Hein. Bon, ça va faire de la place, ça c'est sûr, mais moi le premier. Mais voyez, là Pierre, il n'est pas en train de dire... Vous avez mal fait, vous fallait tout me donner. Il dit, ce que vous avez mal fait, c'est que vous êtes comparé. Ce que vous avez mal fait, c'est que vous avez menti. C'est ça qui est mauvais. C'est pas l'argent, c'est pas le don, c'est pas le fait qu'ils aient gardé un bout, c'est le fait qu'ils ont menti. Et là, le cœur, il n'était pas droit. Et ça, c'est ce que Dieu veut, un cœur droit. Chacun, ce qu'il pourra. Ne te mets pas en danger. Le but, c'est pas que tu sois ruiné. Et il dit bien, il n'est pas question de dîme, il n'est pas question de 10%, il est question de rien du tout. Il dit, Paul encourage un don venu du cœur, selon ses moyens. Et là, pareil, hein, dans toujours le même livre, dans les idoles du cœur, c'est l'auteur qui dit, hein, ce qui était venu, venu écouter pour l'argent, juste avant de commencer, il dit, oh, de toute façon, moi, monsieur Keller, moi, je donne 10%. Après tout, c'est normal, c'est ce qui est demandé dans la Bible. Et puis, lui, il l'a regardé, puis il lui a dit, est-ce que Christ s'est donné à 10% sur la croix? Et puis, il a laissé, le chrétien allait se rasseoir, méditer ce qu'il venait de dire. J'aime assez les fois quand on s'enferme dans une rigueur, et puis qu'on dit, j'ai donné, j'ai fait ce qu'il fallait, et maintenant, je suis tranquille. Et on peut l'avoir hein, en grandissant. Et il dit, non, c'est une attitude de cœur. Paul nous souligne les moyens de chacun. Et après, on peut gagner. Le budget est à la lumière de la parole de Dieu. Ici, il n'est pas question que je vous dise, oh là là, maintenant, tout le monde doit donner 10% et c'est tout. C'est pas à moi de le dire. La Bible, de toute façon, ne le dit pas. Enfin, dans le Nouveau Testament, il ne le dit pas. Il dit donner. Ça vient du cœur. C'est ça qui est important. Et parfois, on a l'inverse. Hein, dans André Adoul, qui a écrit « Dieu et mes sous », il disait qu'il connaissait quelqu'un et tout le monde le surveillait hein, parce que c'était un homme assez impétueux. Et dès que quelque chose lui plaisait, des fois, il dépensait tout l'argent du foyer pour un don. Alors, sa femme essayait de le régler, mais les anciens étaient au courant et souvent, ils redonnaient une partie parce que sinon, il n'y avait plus rien à manger. Il était tellement... il dit « Ah, oh, ça me plaît, ça... Allez, hop !» Et puis, il donnait tout. Et il n'y avait plus rien, on ne pouvait plus payer. Et voilà, l'auteur soulignait un équilibre à avoir. Il n'est pas question de la spontanéité. Ça peut exister, mais la spontanéité ne doit pas passer avec ce que demande aussi le Seigneur, d'avoir une gestion saine, de prendre soin de notre famille aussi. Et pourtant, c'est un bon chrétien. Et parfois, il s'endettait au-delà de tout. Pareil, que je sois trop rigoriste à dire le moindre centime j'ai donné... Voilà, j'ai mes beaux 10%, je suis dans la belle loi de Dieu, où je donne tout, et puis parfois c'est très dur avec ma famille. Entre les deux, c'est ce que Paul demande, c'est ce que la parole demande. Un budget sain au regard de Dieu et au regard de notre cœur. L'apôtre rappelle aux Corinthiens que le don est pour le Seigneur d'abord, et que l'argent est l'un des dieux de ce monde. Et en s'en débarrassant, c'est-à-dire systématiquement, avec joie, avec bonheur d'aller donner, on désacralise ce qu'est l'argent. On désacralise ce pourquoi des fois des personnes se battent. Je suis toujours assez émerveillé, malgré l'endurcissement du peuple d'Israël, quand Moïse fait un appel au don, à un moment donné, il est obligé d'arrêter. Il dit, c'est bon, arrêtez, hein, trop. Voilà, comme ça c'est lancé. Si quelqu'un veut faire la même chose avec les dons, il peut, on est prêt aussi. Et ça, je trouve ça assez beau, le fait que les gens venaient librement, et ils n'étaient pas forcément tous riches, mais ils étaient venus, ils donnaient. Et après, on a dit, bon, attends, on va compter. Et plusieurs fois, alors ça n'arrive pas très souvent, mais deux ou trois fois dans la parole, il y a le peuple qui est saisi et qui veut vraiment faire don d'une libéralité et qui vient donner librement, en toute confiance, tout ce qui représente le Dieu de ce monde. Il dit, on le donne pour celui qui est notre Dieu. Et Jésus, hein, c'est ce qu'il dit en fait. Quand il est venu, il a beaucoup parlé de l'argent pour la désacraliser, pour dire l'argent, c'est quelque chose qui peut vous corrompre très facilement. Donc il faut avoir cette confiance en Dieu. Ces rappels ont pour but justement que l'argent ne soit pas un tout, ou une poursuite, ou un but de vie. Il y a des gens qui disaient, des politiciens qui avaient dit, si t'as, à 50 ans, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. C'était son but, c'était sa vision de la vie. Bon, personnellement, il me reste trop peu de temps pour que j'aie une Rolex à 50 ans, donc moi j'ai raté ma vie. Mais c'était sa vision. Moi, j'en suis triste, mais lui, il était persuadé que c'était sa bonne vie. Maintenant, il faut se détacher de cela et dire, voilà, Paul, il dit, je désire pas votre ruine. Je désire pas que vous soyez ruiné, mais regardez votre budget à la lumière de la parole de Dieu et donnez. Donnez, sans attendre. Nous sommes appelés à recevoir les dons à la lumière de l'Évangile. Et Dieu nous aime, quel que soit notre don, ça c'est sûr. Dieu nous aime, mais quand on aime Dieu, c'est une réponse. Je veux dire, le service pour le Seigneur est une réponse à son amour. Le service tout simple, que ça soit tout simple, enfin, c'est toujours un peu compliqué pour moi la sono, mais que ça soit la projection, que ça soit le chant, que ça soit celui qui prépare la scène, celle et ceux qui prennent soin des enfants. C'est une réponse en amour de Dieu qui a fait pour nous en Jésus-Christ. Et les dons, c'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est aussi un rappel en la confiance de Dieu. Je te fais confiance, je te donne parce que je sais, je place ma confiance en toi. Et après, voilà, il dit que chacun donne selon ses moyens. Et là, c'est vraiment une différence. C'est aussi ça qu'on veut et qu'il veut souligner. Les dons à l'Église, c'est la gloire de Dieu et un investissement pour le croyant. C'est pour compléter un peu ce que dit Paul. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, vous aussi, comme je l'ai prescrit aux églises de Galatie. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Paul dit, c'est pas qu'à vous, Corinthiens, que je vous dis ça, c'est à tout le monde. C'est à tout le monde. Faites ces choses. Faites ces choses. L'argent était un sujet difficile à l'époque, c'est un sujet difficile aujourd'hui. Il dit, vous devez avoir un rapport sain avec l'argent. Comme vous avez un rapport sain avec vos frères et sœurs, tout doit être dans la transparence. Et lui-même, il sera transparent. Il dit, moi, quand je serai venu, Corinthiens, prenez des gens de confiance, remettez-leur la somme. Paul, il vient pas en disant, je vais passer chez vous, je vais prendre l'argent, et puis voilà, comptez sur moi pour aller l'amener à Jérusalem. Non, non, il dit, allez-y, vous aurez des gens de confiance, je suis dans la transparence, la somme sera prise, vous allez les choisir, des gens parmi vous, on est dans la transparence totale. L'apôtre, il dit pas, s'ils vont venir avec moi, ils vont venir avec moi, il n'y a pas de problème, je les prendrai avec moi, on ira à Jérusalem. Il n'est pas en train de dire, moi, je vais vérifier ce que vous avez donné, m'en garder peut-être un petit bout. Non, non, il est en train de dire, c'est dans la transparence que ça sera fait, tout ça, pour la gloire de Dieu. C'est jamais pour lui. Il dit tout ça, c'est pour la gloire de Dieu, parce que dans sa lettre suivante, on a un peu lu tout à l'heure, dans 2 Corinthiens 9, 7 et 8, il leur rappelle que le don qu'ils avaient promis est toujours en cours. Donc il dit maintenant, allez-y, que chacun donne, comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il n'est pas question de 10%, de quoi que ce soit. Il dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne avec joie, mon frère, ma sœur. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous voyez, Paul, il est en train de dire des choses incroyables. Dieu aime celui qui donne et par ses grâces, il vous comblera encore. À tout point de vue, vous aurez de quoi faire. L'apôtre montre que le don est décidé, fait librement, avec joie. C'est pas je mets et je signe combien j'ai mis. Un des profs nous disait, il a visité une église à Chicago où il y avait la somme qui s'inscrivait quand les gens donnaient. Et après, on honorait celui qui avait donné le plus. Alors, il y avait une grosse somme, 10 000 dollars. Et il fait, ah voilà, on remercie ce frère pour les 10 000 dollars. Tout le monde applaudit. Puis lui, un peu moins parce qu'il n'y a que 8 000. Puis après, de moins en moins. Alors celui-là qui arrive à 1 dollar, je ne sais pas quel applaudissement il a eu, mais c'est quelque chose qui n'est pas biblique. Et lui, il était là un peu dans cette église, il était, oh, qu'est-ce qui est en train de se passer? On n'est plus du tout pour qui ces gens donnent, pour les applaudissements de l'église. Ou comme il le dit Paul dans cette deuxième lettre, qu'il a décidé sans regret ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie, non pas pour recevoir quelque chose des hommes, mais de lui. Investir, c'est une économie à la mode, mais Dieu nous demande d'investir dans l'église locale. Alors, je ne suis pas conseiller bancaire, mais je pense que personne ne vous dira de faire ça. Investir dans l'église locale, ça ne sert à rien. Mais pour nous, l'église locale, c'est là où on est enseigné, c'est là où nos enfants ont l'enseignement, c'est là où on a nos frères et sœurs, c'est là où on prie, c'est là où on échange, c'est là où on s'exhorte. C'est là où c'est important d'investir. C'est là où l'église rayonne. Alors, toutes les églises le font, mais localement, c'est les membres qui soutiennent. Et c'est pourquoi le don à l'église locale est l'un des premiers dans nos pensées à le faire. Bien sûr, on peut aller soutenir aussi d'autres églises, d'autres choses que le Seigneur pourvoit. Mais il dit, pensez-y quand vous donnez. Est-ce que c'est là où vous êtes instruit? Est-ce que c'est là où vous avez des frères et sœurs? Alors oui, on peut. Mais j'aime assez cette vision de l'auteur dans le livre qui disait « Pourquoi dois-je soutenir mon église locale ?» Premièrement, l'église locale. Ce qui dit, c'est là où je vis en fait ma vie de disciple. Et investir à contre-courant, être différent, investir dans l'église locale. Déjà au temps des Corinthiens, c'était pas bon, parce que les chrétiens, c'était quasiment inexistant. Aujourd'hui, c'est pas beaucoup mieux. Investir dans l'église, ça sert pas beaucoup. Mais il dit, faites-le avec un cœur vrai. Vous savez, le cœur, ça a toujours été le problème. Le cœur, déjà dans l'ancienne alliance, les prophètes ne dénonçaient pas qu'il n'y ait plus de qu'il n'y ait plus de sacrifice, il dénonçait le cœur. Et plusieurs fois, les prophètes sont très sévères, il dit « Je ne regarde même pas tes sacrifices. J'ai horreur de tes holocaustes. » Parce qu'en fait, c'est le cœur qui était pas. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'est pas avec moi. Et c'est toujours ce que Dieu a voulu. Il ne veut pas notre argent, il veut que le cœur soit un avec lui, avec un cœur vrai. Paul nous enseigne, comme il enseignait aux Corinthiens, de ne pas laisser le monde et tout ce qu'il nous offre aujourd'hui nous déposséder de la joie de donner. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de choses qu'on peut faire, si on regarde, on dit, ben, on peut plus donner, quoi. Parce que si je fais ça, je paye ça, je paye ça, je paye ça, faut aussi que j'ai un peu ça, parce que sinon j'ai plus rien. Et là, c'est à nous de réfléchir chacun, qu'est-ce que c'est notre superflu. Notre prof disait, le superflu, c'est quoi? C'est 5 euros, 10, 12, 1000, 100 000? C'est quoi votre superflu? On ne sait pas. C'est à chacun de regarder soi-même, qu'est-ce que mon superflu? Qu'est-ce que je suis prêt à donner? Librement, sans contrainte ni regret. Hein, parce que le but, c'est pas de regretter. Et là, c'est pareil, ça va dans ce sens-là. Et il dit, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Vous êtes aimé d'un Dieu qui vous a tout donné, donné en retour. Non pas par contrainte, mais par amour. Voilà, Paul rappelle l'importance du soutien intra- et intercommunautaire. Parce que c'est les frères et sœurs qui vont soutenir les frères et sœurs. C'est pas le monde extérieur. Et Paul encourage cela, voilà, comme une gloire de Dieu. Il les a repris sur plein de choses et dit maintenant, continuez à donner gloire à Dieu dans vos vies, y compris dans la manière de gérer l'argent. Tout ça pour la gloire de Dieu, priorité à l'église locale, oui, c'est là où Dieu est glorifié. Et pour conclure, on voit que malgré les difficultés de l'église, elle avait promis d'aider, de soutenir. Et bien, Paul exhorte les chrétiens de Corinthe à poursuivre leur œuvre. Il dit voilà, continuez ce que vous aviez promis, et ne le faites pas quand je vais arriver. Commencez maintenant. Déjà parce que la somme est plus importante le temps qu'il arrive. Parce que c'est sûr, si on fait une seule collecte en une fois, alors ça peut être une somme importante, mais au regard de tout ce qu'il aurait pu avoir. Et il dit, commencez aussi maintenant pour poursuivre par la suite, pour soutenir d'autres personnes, pour soutenir vos anciens. Parce qu'à l'époque, les anciens ne travaillaient pas. Ils étaient pour la parole de Dieu, les vrais anciens. Donc il fallait bien subvenir à leurs besoins, aux besoins de leur famille. Et là aussi, c'est vraiment l'attitude qu'il faut retenir, c'est que la somme n'a pas d'importance pour Dieu, mais c'est le cœur de ce que tu donnes. Une générosité planifiée et quantifiée. Et John Piper, un autre auteur, disait « J'offre des fleurs à ma femme pour lui montrer que je l'aime. Non pas parce qu'elle va m'aimer plus ou parce que j'y suis obligé, mais je le fais parce que je l'aime et je lui offre des fleurs. » Il donnait cet exemple pour illustrer, alors c'est bien sûr, nous, c'est une anecdote, mais je trouve le rapport assez beau, dans le sens où on offre quelque chose à Dieu parce que Dieu nous aime. Non pas parce qu'il va nous aimer plus, non pas, mais parce qu'il a tellement fait pour nous que ce qu'on peut lui rendre, de toute façon, ce sera insignifiant. Mais on le fait parce qu'on a foi en lui et parce qu'on l'aime. Le cœur a une générosité difficile. Et c'est là où on doit aussi travailler. L'argent pour le monde, et donc pour le chrétien, ça peut aussi devenir rapidement, comme on l'a vu, un problème. Ça peut devenir quelque chose de très dur, où des gens vont imposer. Ça peut être dur. Il y a des gens qui ont peut-être aussi des fois vécu, des fois dans des passifs, des églises qui peuvent être très exigeantes. Ou au contraire, c'est pas grave, on n'en parle jamais, chacun fait ce qu'il veut. Et ça peut être très difficile à subvenir à tout. Et pourtant, Jésus a beaucoup parlé de l'argent, parce qu'il le savait. Il n'a jamais donné de loi stricte, mais il dit vraiment des choses importantes, intéressantes, et je finirai par ça. C'est dans 2 Corinthiens 9, donc la deuxième lettre de Corinthiens, où Paul revient sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui n'a pas encore été fini, et il dit dans 2 Corinthiens 9, 10 à 15, « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue de toutes sortes d'actes et de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait abonder les prières de reconnaissance envers Dieu à travers l'expérience qu'ils font de ce service. Ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous, parce qu'ils font une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Voilà, Paul il dit, vous allez donner, mais au travers ces dons, au travers c'est la générosité dont vous faites preuve, Dieu est glorifié. Et Dieu se manifeste. Et Dieu vous rend en plus. Alors ça peut être spirituellement, ça peut être plein de choses, mais Dieu vous redonne. Et on tisse des liens. J'aime assez cette vision de, voilà, les dons, c'est un investissement du croyant, parce que c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour faire grandir Dieu qui se révèle également dans ces petites choses. Finalement, nous sommes tous enrichis en Christ, et nous avons tous été enrichis en Christ. Ici, il n'est pas question de déborder, à parler de, ouais, demander ce que vous voulez, et vous l'aurez. Il faut avoir aussi un juste milieu. Mais finalement, c'est le cœur qui était une préoccupation de cette église de Corinthe. Quand on regarde depuis le début, si l'envie vous en dit pendant ces vacances, de relire toute cette lettre, ces 16 versets, vous verrez que finalement, Paul reprend souvent le cœur. Que ça soit, peu importe ce qui s'est passé, dit c'est votre cœur. Votre cœur n'est pas encore bien droit devant l'Évangile, bien droit devant le Seigneur. Que ça soit dans les dons, que ça soit dans la manière de vivre ensemble, dans tout ce qu'on a vu, le cœur doit être dans l'amour. C'est pour ça qu'il y a ce 1 Corinthiens 13 qui précise toute chose. Il dit que si vous n'avez pas l'amour, tout ça ne sert à rien, y compris les dons. Voilà, et c'est ça qui dit, Dieu doit être loué, prié, remercié par nos dons. On montre qu'on aime le Seigneur. Ne nous enfermons pas alors dans une rigueur légaliste, dans une fausse austérité, mais ayons une vision saine, une gestion saine pour la gloire de Dieu, qui permettra à l'Église de vivre et de pouvoir à son tour faire preuve de libéralité en Église. Parce que là, les Corinthiens sont chacun pour soi, chacun vous devez faire, et l'Église en elle-même soutient une autre Église. Vous voyez, on a plusieurs strates, et chacun doit avoir cette libéralité. Et c'est un témoignage fort à contre-courant de l'époque, où les religions gardaient plutôt l'argent, y compris dans la religion juive, où justement l'hypocrisie était dénoncée. Et là, justement, c'est une vision, un évangile qui se donne à l'image de Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous. Voilà, si retenir, vraiment donner, Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte.